Elle. Cube Radio. Les rencontres de l'heure. Chaque heure, une nouvelle rencontre.
Nouvelle rencontre.
Les rencontres de l'heure. À la fin de chaque rencontre, soyez assurés que le vainqueur, ce sera vous.
Cube Radio.
Une radio pas comme les autres.
C'est le temps de parler avec mon ami Tom Mulcair. Bonjour Tom.
Salut Yasmine.
Alors, on revient sur les propositions d'Éric Duhaime et je suis sûre que tu as écouté l'entrevue qu'il m'a accordée hier. C'était particulier sur 96, sur la loi 96 et la loi 21.
C'était particulier et je tiens à féliciter ma collègue Yasmine. Parce que il y avait un moment où tout d'un coup, il commence à parler du Maroc, puis la tentation, et peut-être c'est ce qu'il souhaitait, a dû être très forte de commencer à remettre les pendules à l'heure. Mais le professionnalisme dont tu as fait preuve dans cette entrevue m'a épaté. Oui, je l'ai écouté, et d'ailleurs j'ai l'intention, parce que j'écris régulièrement dans The Gazette, j'ai l'intention de faire référence à ton entrevue, puis normalement, si tout va bien, ce serait, le lien serait dans la version électronique.
C'est gentil, c'est apprécié.
Ben, c'était un bon moment de radio, hein? Et Duhaime en a donné beaucoup de bons moments de radio parce que, bon, il a dit des sottises aussi, mais c'est un gars qui est habile devant un micro. Il y a des choses qui m'ont épaté. Ou non, essayer d'avoir une réponse claire en matière d'orientation de M. Duhaime, c'est un peu comme essayer de clouer du jello sur un mur. Hein? On essaie d'avoir une réponse, mais bang! Tu me l'avais dit dans notre entrevue parce que j'avais pas à ce moment-là écouté ton entrevue avec Duhaime. Et tu lui demandes, si vous êtes élu, la loi 96, vous le jetez par-dessus bord. Réponse, oui. Bon, ben, on peut difficilement être plus clair que ça. Et sincèrement, je trouve ça courageux de sa part parce que il est en train de rompre avec une vérité reçue.
Hein? Oui.
Moi, je suis avocat, je travaille dans le dossier linguistique, Yasmine, pour la petite histoire. Depuis plus de 30 ans, j'ai suivi de près ce dossier-là. J'étais aux affaires législatives du ministère de la Justice du Québec en le 13 décembre 1979, lorsque tout d'un coup, on apprend, justement, que le Québec doit faire adopter la version anglaise de toutes ses lois, tout comme le Manitoba. Ça a pris une éternité au Manitoba, ça s'est fait tout de suite au Québec. Donc, j'ai fini par être responsable de la traduction des lois au Manitoba. Donc, c'est un dossier où j'étais le directeur des affaires juridiques chez Alliance Québec. J'ai travaillé au Conseil de la langue française. C'est un dossier que je connais bien. Mais d'avoir quelqu'un qui dit, c'est rafraîchissant. Duhaime me dit, hey, regarde là, ça c'est les chicanes que Legault essaie de provoquer parce qu'il veut garder sa base péquiste. Moi, ça m'intéresse pas. Moi, j'ai trouvé ça bien. Ce que j'ai trouvé moins bien, justement, avec lui, c'est toujours sa tendance à bifurquer, à divaguer, à essayer de faire un virage à gauche parce que tout le monde s'en va à droite et inversement. Ce qui m'a surpris, donc, lorsqu'il a parlé de la loi 96, il a donné son oui. Mais et tout de suite, il a commencé à parler de complètement autre chose. Donc, il a commencé à dire, oui, mais tu comprends, même le Parti québécois a voté contre la loi 96. Ouais, la PQ a voté contre la loi 96 parce qu'il trouvait que ça allait pas assez loin.
C'est comme pas les mêmes arguments que lui.
Mais non, ça va. Oh, non, mais on dit, il y a une expression en latin de ça, on dit un non sequitur, un truc qui ne suit absolument pas, aucun rapport avec ce qui vient de précéder. Et il fait ça tout le temps. Là, tout d'un coup, son truc sur le Maroc, comme si ça avait rapport. Puis tout d'un coup, il se dit, puis c'est tout à son honneur, parce qu'il vit bien comment il est et qui est-ce qu'il est. Mais il dit, ben, moi, je suis ouvertement gay, donc je veux pas recevoir les services de l'État de quelqu'un qui pratique une religion. C'est quoi le rapport entre ton orientation, qui tu es, et très bien que tu en parles, puis tu...
Mais moi, la question qui me vient toujours à l'esprit, Tom, c'est de dire, avant l'adoption de la loi 21, M. Duhaime, vous sentiez-vous persécuté par les agents de l'État, peu importe leur religion, parce que vous étiez gay? Qu'est-ce que ça a changé du jour au lendemain dans cette adoption?
Hein, tous les gardiens de prison sikh, hein, avec leur turban, puis bon, toutes les gardiennes de prison avec leur hijab, puis tous les procureurs de la couronne avec leur kippa, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qu'on arrête de se compter des parts.
On n'a pas un.
Mais pas seulement ça. Moi, en Ontario, là, tu regardes le Peel Regional Police, qui est un grand corps de police proche de Toronto. j'étais là pour la parade du jour du Canada, le 1er juillet, puis devine quoi, il y avait plusieurs policiers et policières, mais plusieurs policiers notamment, ici, qui portaient leur turban, qui était un turban d'uniforme. T'as pas le droit de mettre ça rose parce que ça tente ce jour-là. Tu dois porter un truc qui va avec ton uniforme et qui est approuvé. Mais ça dérange. Non, blague à part, là. Est-ce que ce policier est moins policier parce qu'il pratique une autre religion? Est-ce que tu dis, ah, ben, si j'ai un accident de char avec un Sikh, il va prendre son bord? Ah, ouais. Si Marie-Louise Lacourcière et Jean-Claude Tremblay rencontrent un policier qui s'appelle Paul Michel, est-ce que c'est parce qu'ils sont peut-être tous les trois catholiques que tu vas être moins bien traité? Ce sont des arguments absurdes.
Mais encore mieux, Tom, imagine être reconnu coupable d'un crime qui nous envoie dans un pénitencier pour plus de 2 ans. On est dans un pénitencier fédéral où les agents du pénitencier vont être sous la loi fédérale, donc pourront porter kippa, hijab, turban, name it. Mais si à 2 ans moins un jour, non.
Ah, ça doit être pour ça que les peines bonbons, c'est souvent 2 ans moins un jour, pour pas avoir à subir ça. Mais ça va être intéressant, parce que justement, à Québec, il y avait une jeune femme qui portait le hijab, qui voulait faire son cours de police, de technique policière, qu'elle était en train de faire. Mais elle sait qu'elle va être barrée ici au Québec, mais elle pourrait justement être au sein de la GRC. Et une fois sa formation et ses stages terminés, elle pourrait très bien revenir ici, pleinement en uniforme et porter son hijab. Et ça va démontrer, je pense, assez aisément, le fait que ce sont des interdictions qui visent à plaire à un certain public qui en a contre. Écoute, il y a eu une étude universitaire très intéressante qui a été faite sur la campagne électorale 2015, quand je faisais face à Harper. Et justement, quand nous, on disait, ben écoutez, là, les tribunaux viennent de statuer, la femme a le droit de s'habiller comme elle veut pour prêter serment comme citoyenne. Ah ben, Gilles Duceppe et le Bloc ont sauté là-dessus. Ils en ont parlé juste de ça pendant le reste de la campagne. Il faut dénoncer ces attitudes pour ce qu'elles sont. Mais on dirait que c'est une passe droit. On peut utiliser toutes sortes de manières contournées pour dire des choses qui sont vraiment pas savoureuses dans une société où on respecte les droits de chacun, les droits linguistiques, bien sûr, mais aussi les droits d'exprimer sa religion.
Les libertés individuelles respectées par les chartes des droits et libertés canadiennes et québécoises, rappelons-le.
Et oui.
Ça fait toujours plaisir à rappeler, ça fait du bien à mon cœur. Tom, il y a aussi cette proposition qui est surprenante, qui fait surface au fédéral sur la question des langues officielles, une possible exemption aux fonctionnaires parlant une langue autochtone.
Oui, comme si c'était pas déjà assez compliqué de ce temps-ci d'essayer de voir clair dans les lois linguistiques. Toi et moi, on vient de parler de la loi 96, loi québécoise, qui vise à changer la donne en ce qui concerne la législation qui remonte à 77 avec la loi 101. Voilà que, depuis une cinquantaine d'années également, au fédéral, on a un petit bonus. Aujourd'hui, c'est 800 $, le même 800 $ que c'était il y a 50 ans. Il y a 50 ans, un bonus de 800 $, ça valait quelque chose. Aujourd'hui, ça vaut pas grand-chose. Mais ça, c'est le bonus du bilinguisme. Donc, on essaie d'encourager les gens d'apprendre l'autre langue, s'ils sont francophones, d'apprendre l'anglais et inversement. Et voilà que des hauts fonctionnaires se réunissent depuis l'automne, en plein milieu du débat sur la loi C-13, qui est une loi qui, lorsque présentée dans sa première mouture par Mélanie Joly, qui maîtrisait le sujet. Je dois dire que Mélanie Joly m'a impressionné la manière qu'elle l'a présenté, le packaging. Elle avait une idée claire. Je pense que si je veux être charitable, je ne dirais pas plus fort que ça, mais je n'oserais pas dire la même chose que de la ministre Ginette Petitpas-Taylor, qui a le dossier maintenant. On dirait qu'elle est un peu dépassée par les événements. Trudeau n'a pas aidé. Il a nommé Mary Simons, même si on peut se réjouir d'une femme autochtone qui devienne notre gouverneur général. Ce que je peux juste dire qu'un an plus tard, elle ne parle toujours pas un mot de français. Contrairement à Ferguson, qui était notre vérificateur général, qui a dit « Donne-moi un an, je vais apprendre. » Puis après un an, tu es capable de donner des entrevues en français. Donc, Mary Simon devient leur emblème. Et l'argument est à peu près comme ceci. Ah, ben vous savez, hein, on a des centaines de fonctionnaires autochtones. C'est pas juste de leur demander d'apprendre les deux langues officielles du Canada s'ils parlent déjà une langue autochtone. Encore une fois, on a du mal à voir le lien. Comme si un autochtone pouvait pas apprendre les deux langues officielles. Mais ça, c'est un argument de ceux qui voulaient nommer un juge à la Cour suprême autochtone qui ne maîtrisait, qui n'avait pas les deux langues. Parce que Trudeau dit depuis le début, si tu veux être nommé à la Cour suprême, aujourd'hui, quelqu'un qui veut être nommé à la Cour suprême, c'est obligatoire que cette personne-là avait déjà la loi sur les langues officielles devant ses yeux lorsqu'il a fait ses études de droit. Donc, tu savais que si tu étais un premier classe, tu voulais être juge à la Cour suprême, apprends l'autre langue. Puis, il y a une couple de beaux exemples à la Cour suprême.
Ben, la dernière nomination, le nouveau juge Mahmoud Jamal, est une personne très respectée, un avocat très respecté à Toronto, maîtrise parfaitement les deux langues et étudie à McGill.
Oui, il a appris en venant ici, il s'est forcé, il travaillait dans un bureau d'avocat et il en demandait, il voulait, il savait très bien qu'il était voué à un cheminement comme ça. Donc, l'idée ici de défaire la loi sur les langues officielles pour une bonne raison en soi, ben dire, écoutez, plus de droits pour les Autochtones, qui peut être contre ça, c'est très bien. Mais si c'est aux dépens d'une des piliers, les fondements même du pays et de la fonction publique, parce que je peux te dire, pour avoir travaillé pendant plus de 10 ans au Parlement fédéral, le français est tellement dans le backstore, là. On va se le dire, là. Le français, c'est même pas sur l'écran de radar en termes. Quand je suis arrivé, il a fallu demander une rencontre spéciale pour avoir les explications pour les pensions et les papiers administratifs, trouver quelqu'un pour le faire en français parce que mon staff était francophone. Alors, tout ça pour dire que je regarde ça avec un œil assez sceptique, mais on va voir ce qui va en sortir.
Rappelons que la réconciliation, ça doit se faire en mettant les peuples ensemble et non en se trouvant d'autres sujets de division.
Bien dit, Yasmine.
Tom Mulcair, toujours un plaisir. On se parle demain.
Allez, à bientôt. Bye-bye.